Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Deuxième épisode.
Écrire l'histoire des femmes, c'est sortir du silence où elles étaient plongées, et c'est de ce silence que je voudrais vous parler maintenant. Pourquoi ce silence? Et d'abord, les femmes ont-elles seulement une histoire? Alors, la question peut paraître étrange. Tout est histoire, disait George Sand. Tout est l'histoire. Pourquoi les femmes n'appartiendraient-elles pas à l'histoire? Alors, tout dépend évidemment du sens que l'on donne au mot « histoire ». L'histoire, c'est deux choses. C'est ce qui se passe, la suite des événements, des changements, des révolutions, des évolutions, des accumulations qui tissent le devenir des sociétés. Mais c'est aussi le récit que l'on en fait. Les Anglais sont bien plus commodes que nous de ce point de vue-là. Ils distinguent « story » et « history ». Story, ce qui s'est passé, history, eh bien le récit que l'on en fait. Les femmes ont été longtemps hors de ces récits, comme si, vouées à l'obscurité d'une inénarrable reproduction, elles étaient hors du temps, du moins hors événement, enfouies dans le silence d'une mer abyssale. Ce silence profond, les femmes n'y sont certes pas seules. Il enveloppe le continent perdu des vies englouties dans l'oubli, où s'abolit la masse de l'humanité. Et l'image des corps enfouis dans les mers et les boues de l'Indonésie, bouleversée par le récent tremblement de terre, est aujourd'hui un sinistre exemple de cet oubli. Mais le silence pèse plus lourdement encore sur les femmes à travers le temps. Et ceci pour plusieurs raisons que je voudrais avec vous, examiner. D'abord parce que les femmes, on les voit moins dans l'espace public. Le seul qui, pendant très longtemps, méritait intérêt et récit. Elles œuvrent dans la famille, confinées dans la maison, ou ce qui en tient lieu. Elles sont invisibles. Pour beaucoup de sociétés, d'ailleurs, l'invisibilité et le silence des femmes font partie de l'ordre des choses. C'est la garantie d'une cité paisible. Leur apparition en groupe fait peur. Par exemple, chez les Grecs, on appelle ça le désordre, la stasie, que Nicole Leroux a étudié. Leur parole publique, la parole publique des femmes, est indécente. Les femmes doivent se tenir dans le silence, dit saint Paul, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite et tombée dans la transgression. Première épître à Timothée. Donc silence des femmes. Même le corps des femmes est frais. On les préfère voilés. Les hommes sont des individus, des personnes. Ils ont des noms. Certains sont grands, de grands hommes. Les femmes apparaissent confusément dans la pénombre de groupes obscurs. Les femmes et les enfants, c'est une expression classique qui traduit cette globalisation. Au début de Triste Tropique, Lévi-Strauss décrit un village après le départ des hommes pour la chasse et il dit « Il n'y avait plus personne excepté les femmes et les enfants. » Les femmes et les enfants, personne. On voit un peu l'égalité des choses. La manière de parler tout au moins. Alors parce qu'on les voit moins, les femmes, on en parle peu. Et c'est une deuxième raison de silence, le silence des sources. Les femmes laissent peu de traces directes, écrites ou matérielles. Leur accès à l'écriture a été plus tardif. Leurs productions domestiques sont rapidement consommées ou plus aisément détruites. Elles-mêmes, les femmes, détruisent, effacent leurs traces parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas d'intérêt. Elles ne sont après tout que des femmes, dont la vie compte peu. Il y a même une pudeur féminine qui s'étend jusqu'à la mémoire, comme une dévalorisation des femmes par elles-mêmes. Quant aux observateurs ou aux chroniqueurs, très généralement masculins, ils leur prêtent une attention réduite ou guidée par des stéréotypes. Certes, on parle des femmes, mais en général, Les femmes sont, la femme est, dit-on. Et la prolixité du discours sur les femmes contraste avec l'absence d'informations précises et circonstanciées. De même pour leurs images. Leurs images produites par les hommes nous disent sans doute plus sur les rêves ou les peurs des artistes que sur les femmes réelles. Les femmes sont imaginées, représentées, avant que d'être décrites ou racontées. Et voilà une seconde raison de silence et d'obscurité. La dissymétrie sexuelle des sources, variable, par ailleurs, inégale selon les époques, et sur laquelle il nous faudra revenir. Donc, silence des sources. Mais le silence le plus profond est celui du récit. Le récit de l'histoire, tel que le constituent les premiers historiens grecs ou romains, concerne l'espace public. Hérodote, Thucydide parlent de quoi ? Des guerres, des règnes, des hommes illustres, en tout cas des hommes publics. Il en est de même des chroniques médiévales et même des histoires saintes. Elles parlent des saints beaucoup plus que des saintes. Au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, l'histoire devient plus scientifique et professionnelle. Est-ce qu'elle fait davantage de place aux femmes et aux rapports entre les sexes? Eh bien oui, un peu plus. Par exemple, Michelet parle des femmes dans l'histoire de France. Il évoque la terrible régence de Catherine de Médicis et il montre de cette régence les inconvénients des femmes au pouvoir. Catherine de Médicis, elle empoisonne, elle brûle, elle massacre la Saint-Barthélemy. Ses fils sont homosexuels, pour Michelet c'est terrible. Au contraire, quand les femmes de la Halle, lors des 5 et 6 octobre 1789, interviennent pour aller chercher à Versailles le roi, la reine et le petit Mitron afin d'avoir du pain, car on en manque à Paris, elles jouent leur rôle de ménagère. Et cela, dit Michelet, illustre le rôle positif que les femmes ont lorsqu'elles se comportent en mère et en ménagère, conformément à leur nature. La vision qu'a Michelet de l'histoire est évidemment très influencée par sa représentation des rôles des sexes. Les femmes du côté de la nature et de la maternité, les hommes du côté de l'événement, de la politique et de l'histoire. Michelet valorise la femme du peuple. Et c'est sous cette forme que les femmes apparaissent dans les manuels scolaires de la Troisième République. En dehors de Jeanne d'Arc, seule véritable héroïne nationale, ces manuels qu'ont étudiés par exemple Claude Lelièvre ou Denise Guillaume et tout récemment Annette Wieviorka, les manuels scolaires parlent très peu des femmes en réalité. Ou alors très globalement, ou alors de Jeanne d'Arc naturellement, toujours Jeanne d'Arc. Au XIXe siècle, signalons-le, la principale nouveauté vient de femmes auteurs. Il y a des femmes qui écrivent au XIXe siècle, de plus en plus. Or, parmi ces femmes auteurs, il y en a qui s'intéressent beaucoup aux femmes. Et tout récemment, une jeune historienne, Isabelle Ernaux, a justement raconté ce rôle des premières historiennes. Elle s'appelle, ces premières historiennes, Louise de Keralio. Eh bien, Louise de Keralio a publié un livre qui s'appelle « Les crimes des reines de France ». Laure d'Abrantès, Hortense Allard, Madame de Renneville, je ne peux toutes les énumérer. Ce sont souvent d'ailleurs des femmes d'origine aristocratique qui tentent de gagner leur vie avec leurs plumes. Et elles écrivent des biographies de femmes. Reines, saintes, courtisanes, femmes exceptionnelles, dont le destin troue en quelque sorte la nuit des femmes. Blanche de Castille, Jeanne d'Albret, Madame de Maintenon, et surtout Marie-Antoinette, fléau et sangsu des Français pour les unes, reine malheureuse pour d'autres qui tentent de la réhabiliter. Voilà ce qui retient ces premières historiennes. Il y a aussi quelques tentatives pour évoquer l'évolution de la condition des femmes. Par exemple, Olympe Audoix publie « Gynécologie, la femme depuis 6000 ans », rien que ça, où elle s'interroge sur le rôle du christianisme dans cette évolution. C'est dire qu'au XIXe siècle, il y a un intérêt montant pour le sujet, les femmes dans l'histoire. Entre les deux guerres, les femmes accèdent à l'université et plusieurs femmes manifestent leur intérêt pour l'histoire des femmes et même, surtout, pour l'histoire du féminisme. Par exemple, Marguerite Thibert ou Edith Thomas. Mais ces femmes demeurent marginales par rapport à la révolution historiographique que constitue l'école des Annales. Vous savez qu'on appelle École des Annales le noyau constitué par Marc Bloch et Lucien Febvre autour de la revue du même nom. Très novatrice, cette école a rompu avec une vision trop exclusivement politique de l'histoire. Mais l'économique et le social demeurent ses priorités. Et cette histoire, cette École des Annales, était très indifférente à la différence des sexes qui n'était pas, à ses yeux, une catégorie d'analyse. Pourtant, Lucien Febvre a publié un très brillant essai sur Marguerite de Navarre qui s'appelle « Amour sacré, amour profane ». Et dans ce livre, il ébauche une histoire du sentiment amoureux et même du viol. Velléité qui ne fut guère suivie par la deuxième génération des Annales, celle de Labrousse et de Brodel, que j'ai déjà évoquée. On peut dire que dans les années 50-70, bon, on ne parlait pas des femmes dans l'histoire. Comment les choses ont-elles changé? Comment est née une histoire des femmes? Voilà ce que je voudrais maintenant brièvement évoquer. Cela s'est produit dans les 30 dernières années, comme je vous le disais la dernière fois en évoquant ma propre expérience, mais maintenant c'est pas de ma propre expérience que je voudrais vous parler, c'est du contexte. Et on pourrait dire que il y a trois séries de facteurs qui ont joué pour arriver à l'histoire des femmes. Des facteurs scientifiques, des facteurs sociologiques et des facteurs politiques. Facteur scientifique, c'est tout simplement le renouvellement du questionnement. L'histoire, dans les années 70, modifie ses perspectives, ses alliances disciplinaires. Par exemple, elle renoue ou elle noue avec l'anthropologie et se développe la démographie historique, par exemple, qui est très vigoureuse. La démographie historique, eh bien, c'est la famille retrouvée. C'est l'intérêt pour la natalité, la mortalité, la fécondité. Bien entendu, on peut parfaitement parler de ces questions sans parler des femmes. Et au début, c'est ce qui s'est produit. Mais tout de même, il y a des interrogations sur les femmes. Et on voit la nouvelle histoire des années 70 multiplier ses objets. Les enfants, les jeunes, la vie privée. Les enfants, on pense à Philippe Ariès. La vie privée, Georges Duby et Philippe Ariès ont dirigé une grande histoire de la vie privée dans laquelle j'ai moi-même dirigé le volume concernant le 19e. Georges Duby publie en 1981 « Le chevalier, la femme, le prêtre ». Voilà encore un exemple. Et puis Michel Foucault et l'histoire de la sexualité. Autrement dit, à partir des années 70 à peu près, le climat intellectuel change et la manière d'écrire l'histoire aussi. On a parlé d'ailleurs d'histoire en miettes, en montrant qu'il y avait un peu peut-être une espèce de multiplication des objets d'histoire. Mais c'est très favorable pour les femmes, pour l'histoire des femmes, c'est un climat très favorable. Donc vous voyez, dans les années 70, il y a un renouvellement général de la manière d'écrire l'histoire. Et puis il y a des facteurs sociologiques. C'est tout simplement la présence des femmes à l'université, comme étudiante et comme enseignante, comme on dit. Alors, comme étudiante, dans les années 70, eh bien, les filles forment à peu près un tiers des effectifs, au moins. Aujourd'hui, elles forment un peu plus de la moitié. Vous voyez, on a déjà, on a depuis beaucoup changé. Comme enseignante aussi, on voit les choses changer. Il ne faut pas oublier que la première femme professeure à la Sorbonne, c'était en 1947. C'était Marie-Jeanne Durie, qui était professeure de lettres, et il a fallu des années pour qu'elle soit rejointe par d'autres femmes. Aujourd'hui, il y a à peu près 30%, un peu plus, de femmes enseignantes dans les universités littéraires, mais encore simplement 15% de femmes professeurs. Vous voyez, la dissymétrie continue à exister. Bon, enfin, quand même, il y a beaucoup plus de femmes à l'université. Il y a donc une féminisation des étudiantes, des enseignantes depuis 30 ans, et cela est comme le ferment d'une demande renouvelée, ça constitue comme une écoute favorable. La troisième série de facteurs, c'est évidemment les facteurs politiques. Ça a été le mouvement de libération des femmes des années 70, ce mouvement auquel j'ai participé, et ma propre histoire rejoint cette histoire collective, et les ce que nous avons dit la dernière fois revient ici. Bien sûr, quand les femmes qui faisaient le mouvement de libération des femmes, elles avaient d'autres soucis. Elles luttaient pour le droit à l'avortement, pour la liberté de la contraception et des questions tenant au corps des femmes. Mais on s'aperçoit qu'il y a eu des effets de mémoire. Ces femmes cherchent leurs ancêtres. Elles se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres femmes qui se sont battues comme nous nous sommes battues? Et il y a un indice intéressant. À Paris, il y a une bibliothèque dont je vous parlerai, qui s'appelle la bibliothèque Marguerite Durand. Et bien cette bibliothèque, qui à ce moment-là était dans la mairie du 5e, jusque dans les années 70, il n'y a personne. Personne n'y va. À partir des années 70, on voit de plus en plus d'étudiantes ou autres, ou de femmes du mouvement des femmes qui y vont pour voir des documents. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Américaines qui viennent travailler aussi dans cette bibliothèque Marguerite Durand. Indice d'un changement. Et alors à partir de ce besoin de mémoire, naît un besoin d'histoire auquel toute l'histoire des femmes que nous avons faite avec beaucoup d'autres a essayé de répondre. Et en même temps, il y a aussi plus profondément comme une volonté de rupture épistémologique, comme on l'a dit, c'est-à-dire une volonté de voir les choses autrement, tout simplement. C'est-à-dire, la question se pose, est-ce que on n'a pas écrit l'histoire uniquement d'un point de vue des hommes? Est-ce que la différence des sexes ne va pas modifier notre manière générale de voir l'histoire? Ça va évidemment beaucoup plus profondément, c'est la volonté d'un autre récit, d'une autre histoire. Voilà par conséquent comment on est passé du silence à la parole, de l'invisibilité à la visibilité, et nous verrons demain comment, avec quelles sources on a travaillé et comment on a essayé de vaincre cet obstacle du silence. En réalité, dès que le regard change, eh bien, on voit autre chose.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.